Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les femmes qui travaillent sont encore une minorité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Celles qui dirigent des entreprises sont encore plus rares. Une Palestinienne, issue d'une famille de 10 enfants, vient pourtant d'être élue femme d'affaires de l'année à Barcelone. Son témoignage dans un instant. La question de l'eau est cruciale pour la bande de Gaza. C'est pourquoi le début de la construction d'une usine de désalinisation de l'eau de mer est une bonne nouvelle pour cette petite région palestinienne. Reportage de Muriel Paradon à Gaza. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Amal Daragmeh Masri est né et a grandi dans un village du territoire palestinien. Après des études en France, Amal, qui veut dire espoir, est retournée à Ramallah où elle a créé avec son mari le groupe Ogari, spécialisé dans les métiers de soutien aux entreprises et de développement dans les territoires. Bonjour Ariane Gaffury.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Journaliste au service économie de RFI, vous avez rencontré Amal lors de la conférence sur l'autonomisation des femmes, organisée au siège de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone, c'était il y a quelques semaines.
Oui Eric, Amal Daragmeh Masri est une femme souriante et chaleureuse, très active puisqu'elle est aussi rédactrice en chef d'un magazine économique, le Middle East Business Magazine et de sa version francophone Ecomag. Elle a également fondé le Forum des femmes d'affaires. Elle est enfin lauréate du prix de la meilleure femme d'affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour l'année 2014. Je lui ai demandé ce que cette récompense représentait pour elle.
D'abord, c'était une belle surprise de gagner un tel prix prestigieux qui avait en fait 20 juges au niveau monde. Pour moi, c'est un mérite. J'ai ressenti que c'était un prix, un vrai, parce que ça n'a pas été choisi comme ça, mais c'était plutôt par jugement, par analyse. Et aussi, ça m'a remonté le moral, ça m'a encouragée à aller encore plus fortement et garder l'esprit entrepreneur surtout, parce que ça, ce n'est pas évident dans notre bout de région.
Est-ce que les gens ont changé d'attitude vis-à-vis de vous depuis que vous avez eu cette récompense?
Ça donne un coup de pouce pour aller au-delà, surtout pour les femmes. Nous, on est toujours entre famille, enfants, travail. Et surtout aussi, quand on est à un certain niveau de succès, il y a des gens autour qui vous passent de l'énergie pas forcément positive. Ça, c'est normal dans le monde du business. Et quand on a un prix, ça donne cette énergie positive dont on a besoin pour avancer, pour créer de nouvelles idées, pour être un modèle vis-à-vis d'autres femmes. Pour moi, c'est très important. Je viens d'un village en Palestine. Et donc, quand des femmes dans des endroits ruraux, par exemple, voient qu'une femme qui est originaire d'un village a réussi, ça leur donne aussi des signes positifs qu'eux aussi peuvent le faire. Pour moi, c'est un signe d'encouragement à toutes les femmes.
Un prix partagé avec toutes les femmes dans cette région où les inégalités sont criantes. Ariane, vous lui avez posé la question.
Vous êtes une femme palestinienne. C'est une région qui est en tumulte. Ça doit être assez difficile de réussir à faire des affaires dans cette région particulièrement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées?
Certainement, être femme dans le monde arabe et être femme en Palestine, ça fait double challenge, vraiment. En Palestine, on est sous occupation, donc ce qui rajoute sur le tas les difficultés qu'on a pour entreprendre notre vie quotidienne. Justement, pour venir ici, c'était la galère pour pouvoir avoir les permis de passage, etc., etc. Et pour le business, pour mon magazine, déjà, j'ai beaucoup de difficultés à me faire sortir ça de la Palestine et distribuer ça dans le Middle East. Je le fais, mais ça me coûte plus cher, ça me fait double effort, mais quand même, j'y arrive, j'insiste. Et aussi, le fait que les mobilités ne sont pas évidentes en Palestine, bouger d'une ville à l'autre, pourtant les distances ne sont pas importantes, c'est 40 km, 50 km, n'est pas évident. Avec les colons israéliens qui occupent une très bonne partie de notre terre, qui vivent avec nous, qui sont armés, qui sont effrayants. Moi-même, je suis propriétaire de plusieurs terrains dans mon village. Je ne peux même pas bâtir une petite pièce sur mes terrains parce que c'est dans une zone où les Israéliens détruisent les maisons. Ça fait que l'investissement dans les zones rurales devient encore plus difficile. Ça rend la vie des gens vraiment infernale.
Et en dépit de ces conditions difficiles, Amal Daragmeh Masri a réussi à s'épanouir, ce qui est exceptionnel. 3% seulement des femmes sont à la tête d'une entreprise dans les territoires palestiniens.
Oui, Eric, et les femmes représentent seulement 17% de la population active. L'accès aux terres est compliqué, mais aussi l'accès à l'eau. Et l'oppression masculine est un handicap de plus, comme nous le rappelle Amal.
la société patriarcale fait que les choses deviennent encore plus difficiles. Avec aussi un facteur qu'on peut rajouter sur le tas, c'est que les Israéliens, ils arrêtent beaucoup de jeunes hommes. Et donc, ça fait que ces jeunes hommes, soit ils sont torturés ou battus, ou humiliés, surtout sur les checkpoints, d'une manière très systématique. Et sur qui ils vont s'affoler ? Sur les femmes, bien sûr. Parce qu'ils sont opprimés tout le temps. Ça crée des mutilations psychologiques dont les femmes souvent sont victimes.
Et les femmes subissent également la loi islamique qui est souvent interprétée en leur défaveur, Ariane.
Et notre femme d'affaires n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure dès que l'occasion se présente.
Ce que j'essaie de diffuser, parce que je parle beaucoup aux médias, je suis quelqu'un qui est un petit peu écouté par-ci, par-là. Et comme je viens d'un village, et je crois absolument que utiliser les coutumes et les traditions contre la femme pour qu'elle puisse tout le temps rester à la maison, j'essaie de montrer l'autre angle. Je dis la première femme d'affaires en islam, c'était Khadija, c'était la femme du prophète. C'est Khadija qui a financé pratiquement l'islam. Le prophète Mohammed était employé chez elle. Et donc, pourquoi aujourd'hui, dans le 21e siècle, on empêche les femmes de faire leur propre business? Parce que dans les statistiques, il y a au moins 30% des femmes qui quittent leur business dans les 3 premières années à cause de la pression familiale et surtout le mari. Et donc pourquoi aujourd'hui, après l'arrivée de l'islam, on traite les femmes comme des objets? Quand on m'invite pour parler dans les universités et aux étudiantes, je leur dis tout le temps, ne croyez pas ce qu'on vous dit, que c'est la religion qui dit que la femme doit rester chez elle. En islam, la femme, elle est partante, elle est militante. Et donc, il faut juste retravailler notre stratégie. Il faut élever les hommes et les femmes ensemble et expliquer bien le vrai esprit de l'islam. C'est contrairement à tout ce qui se passe. Et les femmes doivent utiliser ça comme point de puissance pour dire aux hommes, arrêtez ce que vous faites parce que ce n'est pas juste.
Alors, conférencière, chef d'entreprise, rédactrice en chef et aussi mère de 3 enfants.
Et Amal a grandi également dans une famille composée essentiellement de filles, ce qui n'est pas anodin.
Nous sommes une famille de 9 sœurs et un frère. Moi, je crois toujours que ma mère est la plus courageuse de toutes parce qu'elle a pu faire cette grande famille tout en étant directrice d'école. Elle fait des activités, elle peint, elle écrit des livres. Donc pour nous, notre rôle modèle était notre maman, notre mère d'abord et ma grand-mère qui venait du village. Elle tenait les terrains de son père, elle tenait les terrains de son mari. Elle faisait le modèle de femme forte. Donc pour moi, ça a été très inspirant. Et aussi, avoir beaucoup de filles autour, ça fait la compétition. Qui fait mieux? Et ce qui fait que mes sœurs, elles sont maintenant dans plusieurs pays, chacune très réussie dans ce qu'elle fait. Et avec des modèles comme moi, comme mes sœurs, ça montre que c'est la capacité, c'est le pouvoir d'avancer qui fait qu'on est bien ou pas, qui fait que le père et la mère sont fiers ou pas. Ça se mesure par ce qu'on fait et non plus par ce qu'on est.
Le portrait d'Amal Daragmeh Masri, femme d'affaires palestinienne récompensée à Barcelone. Merci Ariane Gaffuri.
Merci Eric.
À Gaza, on estime que 95% de l'eau est impropre à la consommation. Un problème qui s'ajoute à bien d'autres dans ce territoire palestinien sous blocus israélien et égyptien. Des solutions existent, mais elles ne sont pas toujours faciles à mettre en application, comme le met en évidence ce reportage de notre envoyée spéciale permanente à Jérusalem, Muriel Paradon, qu'on retrouve juste après.
Alia remplit un pot d'eau pour boire et cuisiner. Pour accomplir ce geste très simple, cette mère de 4 enfants est obligée de sortir de chez elle. Elle se sert dans un grand container en bas de son immeuble.
J'utilise cette eau du container parce que mes enfants veulent boire. Et nous ne pouvons pas boire l'eau du robinet, elle n'est pas bonne, c'est comme de l'eau souillée. Si on en boit, ça rend malade, mes enfants ont mal au ventre.
Le conteneur d'eau est rempli tous les 15 jours par une compagnie privée qui passe régulièrement dans les rues de Gaza avec son camion-citerne. L'eau est payante et pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, il y a les organisations humanitaires. Car à Gaza, 95% de l'eau est impropre à la consommation. Sajid Al-Mougani, porte-parole de l'UNICEF sur place.
Il y a une surexploitation du réservoir en eau naturelle de Gaza. La pluie n'arrive pas à le remplir suffisamment et la mer s'y infiltre. Du coup, l'eau naturelle devient salée. De plus, il y a un manque d'infrastructures pour traiter les eaux usées. Les égouts contaminent le sol ainsi que le réservoir d'eau naturelle.
Les réserves en eau à Gaza sont donc souillées par la mer et les eaux usées. Mais les solutions existent. L'UNICEF vient de lancer la construction d'une usine de désalinisation de l'eau de mer pour la rendre potable, Gaza étant en bordure de Méditerranée. Saji Al-Mougani.
Ce sera une grande usine de désalinisation d'eau de mer. Elle fournira 6000 mètres cubes d'eau par jour à quelques 75 000 habitants de Gaza qui se trouvent à Rafah et Khan Younes dans des zones où la population est particulièrement démunie.
Le projet coûte 10 millions d'euros et est financé par l'Union européenne. Mais il y a des obstacles. Comme l'explique Sadi Ali, il travaille pour l'autorité palestinienne de l'eau à Gaza.
Aujourd'hui, nous avons un énorme déficit en électricité à Gaza de plus de 45%. Et les usines de désalinisation sont très consommatrices en électricité. Donc vous ne pourrez pas régler le problème de l'eau si vous ne réglez pas le problème de l'électricité. Il faut que la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, le prenne en compte.
Il faut aussi bâtir cette usine. Et à Gaza, il y a toujours des problèmes pour importer des matériaux de construction. Les Israéliens qui maîtrisent la frontière ouvrent et ferment les points de passage comme bon leur semble. L'usine de désalinisation commence à peine à être érigée. Si tout va bien, elle devrait être opérationnelle l'année prochaine.
On retrouve Muriel Paradon en ligne de Jérusalem. Bonjour Muriel.
Bonjour.
On l'a entendu dans votre reportage, il y a beaucoup d'obstacles pour construire cette usine de désalinisation.
C'est vrai qu'il y a toujours des obstacles à Gaza pour construire quoi que ce soit. Les matériaux de construction passent au compte-goutte, dépendant du transit par Israël. Rappelons que Gaza est un territoire occupé et c'est Israël qui contrôle sa frontière, les points de passage qui en dépendent. Et il suffit qu'il y ait une crise avec Gaza ou simplement des vacances en Israël pour que le terminal de Kerem Shalom qui sert au passage des marchandises soit fermé. Pour ce qui est de l'électricité primordiale pour faire fonctionner cette usine, c'est le problème numéro un à Gaza. Depuis des mois, il n'y a que 6 à 8 heures d'électricité par jour. La centrale électrique ne fournit pas assez. Parfois, elle ferme, faute de carburant. Vous savez que depuis que l'Égypte est en froid avec Gaza, les tunnels qui faisaient passer de l'essence en contrebande ont été détruits. D'où ce déficit en électricité qui handicape bien sûr la vie quotidienne des Gazaouis, mais aussi les usines et les commerces.
Dans ces conditions, Muriel, pourquoi ce choix de construire une usine de désalinisation ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ?
Alors l'idéal serait évidemment d'assainir le réservoir d'eau naturelle de Gaza, ce qu'on appelle l'aquifère, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Et certains experts sont très pessimistes, ils estiment que si rien n'est fait, ce réservoir sera totalement contaminé d'ici 2 à 4 ans. Alors il y a des projets pour les eaux usées, la construction d'une usine de traitement des eaux usées financée par la France est en cours. Mais en attendant, eh bien, la désalinisation semble l'unique solution. Plusieurs usines de ce genre d'ailleurs sont en projet.
Et importer de l'eau d'Israël, ce serait possible ?
Alors j'ai posé la question à Sadi Ali de l'autorité de l'eau à Gaza, qu'on entend dans le reportage. Il y a déjà de l'eau importée d'Israël vers Gaza, mais en quantité insuffisante. Et puis les autorités de Gaza veulent pouvoir maîtriser leurs ressources en eau, utiliser l'eau de mer qu'ils ont juste à côté, c'est une solution. Cela fait partie de la stratégie des autorités palestiniennes pour avoir un État indépendant, m'a expliqué Sadi Ali. L'eau est aussi un enjeu politique à Gaza.
Merci Muriel, envoyée spéciale permanente de RFI à Jérusalem.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, la Syrie et les combats qui font rage sont à la une de la presse panarabe, plus particulièrement la question des djihadistes européens.
Oui, et le journal Sharq al-Awsat publie les détails d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles pour faire face au phénomène des Occidentaux qui partent en Syrie pour le djihad. Alors une réunion, selon le journal, à laquelle participaient des représentants de France, de Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, ainsi que de Tunisie, du Maroc, de Jordanie et de Turquie. Entre autres questions évoquées, l'influence des médias sociaux dans le recrutement des djihadistes. En Arabie Saoudite, par contre, on est passé à la vitesse supérieure, selon le journal Al-Haya, puisque 6 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 11 années de prison pour avoir favorisé le départ de djihadistes en Syrie. Alors, rappelons que dans la plupart des pays du Golfe, Internet est contrôlé, comme en Arabie notamment.
Plusieurs articles également, Alexandre, sur la réconciliation palestinienne entre le Fatah et le Hamas et ses perspectives.
Oui, et des journaux comme Al-Quds Al-Arabi applaudissent le rapprochement entre les deux factions rivales palestiniennes. Le journal précise que le Hamas a rejeté une demande de Amr Moussa, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe, de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Mais des éditorialistes de la presse, notamment égyptienne, restent sceptiques sur les chances d'une vraie réconciliation. Ils soulignent que l'assouplissement du Hamas à l'égard du Fatah est dû aux problèmes économiques de Gaza provoqués par la destruction des tunnels de contrebande avec l'Égypte. Alors le fait que la tentative de réconciliation passe par le Qatar déplaît à une Égypte qui jouait jusqu'à récemment le médiateur entre les deux factions palestiniennes.
Le Qatar décidément très présent sur la scène diplomatique régionale. Michel, un cri d'alarme dans la presse israélienne cette semaine. Les crimes de haine contre les Palestiniens et aussi les chrétiens se multiplient.
Mais c'est le sujet qui fait les titres ces dernières semaines, des actes de vandalisme anti-arabe et aussi plus récemment anti-chrétien et qui sont désormais qualifiés par la presse israélienne de crimes de haine. Et dans son édition de ce week-end, le quotidien Retz en fait sa manchette. La police et les services de sécurité, selon le journal, se préparent à contrer des crimes de haine pendant la visite du pape. Le pape François est attendu en Israël et côté palestinien à la fin du mois. Selon des sources citées par Arets, des militants d'extrême droite auraient l'intention de passer à l'action pendant cette visite. Toujours à la une du quotidien, un extrait d'une lettre envoyée par les autorités religieuses de Jérusalem aux responsables israéliens. Il existe une véritable atmosphère de terrorisme. Ces dernières semaines, plusieurs prêtres chrétiens ont été insultés et l'objet de crachats de la part de jeunes militants de droite en Israël. Des graffitis anti-islam ont été inscrits dans des mosquées, des pneus crevés dans des villages d'Arabes. Le problème, selon un éditorialiste, c'est que personne au sein de la droite israélienne ne condamne véritablement ces attaques et que s'il y a parfois des interpellations, eh bien, il n'y a pas de poursuite judiciaire.
Également, Michel, une nouvelle initiative controversée.
Oui, c'est un projet de loi lié directement aux négociations avec les Palestiniens. Le texte, copié sur une législation américaine, stipule qu'il sera impossible d'amnistier des détenus pour meurtre de plus d'une personne et des assassinats d'enfants également. En fait, le but du groupe de députés de droite qui est à l'origine de cette initiative est d'empêcher la libération de Palestiniens auteurs d'attentats sanglants dans le cadre du processus de paix.
Quant au président Shimon Peres, eh bien, il est en fin de mandat. Michel Paul, la campagne pour l'élection de son successeur est plutôt animée.
En principe, rappelle le quotidien Israel Hayom, la semaine prochaine, la date de l'élection présidentielle devrait être publiée. Le président de l'État occupe des fonctions purement cérémoniales en Israël. Il est élu par les 120 députés de la Knesset. Mais voilà, selon Mariv, Benjamin Netanyahou envisage de repousser cette élection. Tout cela parce que les candidats ne sont pas de son goût.
Alexandre, vous avez noté encore dans la presse plusieurs comptes rendus sur la publication de livres consacrés aux médias sociaux et aussi au soulèvement arabe.
Oui, et le dernier ouvrage s'appelle « Fitna, la sédition de Facebook ». Un ouvrage qui rappelle le rôle des médias sociaux dans les soulèvements en Tunisie et en Égypte et qui veut être aussi un guide pour tous les nouveaux venus sur Facebook et Twitter. Il consacre notamment un chapitre à l'usage de l'alphabet latin pour écrire l'arabe, le franco, comme on l'appelle, un alphabet qui utilise les chiffres pour écrire les lettres qui n'existent pas en latin, comme le 3 pour le Ain, le 7 pour le Ha et le 5 pour le Kha.
Allez, pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour.
C'est la photo du véritable déluge qui s'est abattu dans la région jeudi, provoquant des inondations, notamment dans les zones désertiques. Un record de pluie pour le mois de mai.
Merci Michel, enfin si on peut dire. Merci Alexandre. Merci également à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.